franceinter.fr.
Bonjour madame, je cherche l'exploitation de Didier Bénès, s'il vous plaît.
Vous faites encore à peu près un kilomètre.
Le tracteur, les hangars, je vois pas encore les brebis, mais elles doivent pas être loin. Et les patous, mais qui ont l'air gentils.
Bonjour. Le loup et l'homme peuvent-ils cohabiter ? La réponse à cette question n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Et le reportage que nous vous proposons de réécouter ce matin avait provoqué un débat assez vif sur notre site lors de sa première diffusion en janvier dernier. Depuis, l'été est passé et les attaques de loups se sont poursuivies. Elles devraient être plus nombreuses cette année qu'en 2013, où près de 6000 bêtes victimes du loup avaient été recensées. Lors d'une visite dans les Alpes, il y a un peu plus d'une semaine, le Premier ministre, Manuel Valls, a apporté son soutien aux éleveurs. Mais les mesures de prévention semblent avoir une efficacité limitée face à un prédateur qui a retrouvé une partie de sa vigueur. Protégé depuis 1979 par la Convention de Berne, le loup a fait son retour en France depuis l'Italie dans les années 90 et il y aurait aujourd'hui environ 300 loups répartis sur une trentaine de départements français. Du point de vue de l'environnement et de la biodiversité, on ne peut que s'en réjouir, mais les bergers et éleveurs du Diois au pied du Vercors que vous allez entendre dans ce reportage expriment, eux, leur désarroi face aux conséquences des attaques du loup qui rendent un peu plus difficile encore l'activité pastorale.
Interception, le magazine de la rédaction.
Les bergers malades du loup, c'est un reportage de Solène Lehen.
Olbi, va voir derrière là-bas.
Ah, vos gros biais, vous suivent plus?
Ça dépend du jour.
Vous les sortez tous les matins et vous les rentrez tous les soirs?
En ce moment, ouais, parce que j'étais prêt juste à côté de la bergerie, donc ça fait la... ça fait le taf comme ça. Olbi, viens là. Là, ces jours-ci, il faisait pas beau, il fait froid, je les ai tendus il y a pas très longtemps, donc... Pas de risque.
De risque qu'elles prennent froid?
Ouais. Si ça souffle, donc le vent elle craigne vachement déjà. Olbi! Olbi, va voir derrière là-bas!
Il fait meilleur ici.
Ouais, il fait bon. Il y a moins de vent.
Je suis Nicolas Pécoz, éleveur à Gigor et Lozeron. J'ai un troupeau de 350 brebis. Je pratique la transhumance et j'ai des brebis allaitantes. Donc, je produis de la viande d'agneau, quoi.
Combien d'attaques ?
Ouais, on a subi 4 attaques de loups. Et on a perdu une vingtaine de bêtes, plus toutes les brebis qui ont disparu suite aux attaques, quoi. Ça représente encore une trentaine de bêtes en plus, quoi. La dernière attaque, elle remonte à 2006, et la première a eu lieu en 99. Donc c'est pas nouveau. Ça remonte, mais c'est pas nouveau, ouais.
La première attaque, c'est celle qui vous a le plus marqué, la première attaque de loup?
Ouais, c'est la première qui te marque le plus, ouais. Ben parce que tu sais que ça sera plus jamais comme avant, et puis ce jour-là, ben voilà, il y a tout qui bascule, en fait. Donc non, c'est hyper... Et moi, donc la première, elle était en 99, elle était sur l'alpage de mon père. Moi, j'avais pas encore de brebis à l'époque. Donc là, ce matin-là, on arrive au troupeau et les brebis étaient effectivement toutes couchées, comme si de rien n'était. Et en fait, à 500-600 mètres du troupeau, il y a 10 brebis qui sont revenues, qui étaient en train de revenir au troupeau, complètement affolées, complètement apeurées, comme des balles au troupeau. Tu dis, ouais, il s'est passé un truc, quoi. Donc tu prends le troupeau, et puis en fait, quand tu redescends le troupeau pour aller au chalet compter, ben, tu tombes sur un cadavre. Tu continues, t'as une brebis au milieu du troupeau qui est en train d'agoniser parce qu'elle s'est faite arracher à moitié la trachée. Mais elle n'est pas morte, elle tient à peu près debout, tu sais pas comment. Donc celle-là, tu la tues. Parce que, ben voilà, il faut abréger ses souffrances, quoi. Avec ton opinel, parce que t'as que ça sur toi. Et puis, tu continues à descendre au chalet, puis tu retombes sur un deuxième cadavre. Et une brebis qui s'est faite saigner à 50 mètres à plat du chalet, quoi. Avec deux agneaux dans le ventre, enfin voilà, ce jour-là, ça nous a coûté 3 brebis et 5 agneaux, quoi. Que des brebis pleines, avec des agneaux dans le ventre, qui étaient prêtes à agneler, qui allaient agneler le mois d'après, quoi. Donc voilà, donc tu comptes, et puis en fait, au compte, il en manque encore 11. Voilà, que tu retrouveras jamais.
Cette attaque, la première attaque, c'était il y a quasiment 15 ans. Vous en parlez comme si c'était hier.
Ouais, parce que ça marque, ouais. Mais dans 15 ans, vous revenez, je vous en reparle pareil. L'image du border qui se balade toujours à 50 mètres de toi quand tu montes aux brebis, qui est toujours devant, quoi. Et puis qui, ce jour-là, ben, lui, il passe derrière une petite butte et hop, il te revient dans les pieds, quoi. En couinant, genre, tu vois qu'il a vu un truc et voilà. Et ce jour-là, le loup, nous, on l'a pas vu, mais il était là, quoi. Parce que la brebis qui était tuée, le sang coulait encore. Donc, c'est nous qui l'avons fait partir. On n'a rien vu, mais c'est nous qui l'avons fait partir ce jour-là, quoi.
Et les suivantes, est-ce qu'on peut dire qu'on s'habitue ?
Non, on s'habitue jamais, non. Non, non. Non, après, c'est comme une épée de Damoclès, et tu l'as sur. Voilà, tu sais que ça peut arriver, ça peut taper n'importe quand, quoi. Le voisin qui est juste à côté, il s'est fait cartonner à 2h de l'après-midi, les brebis qui sont parties à 2h de l'après-midi, quand le troupeau est parti, y avait deux brebis mortes, quoi. Ils ont plus peur de l'homme, donc ils attaquent à peu près n'importe quand.
Comment vous ressentez, en fait, chaque attaque ?
Ben, c'est comme. J'en sais rien, moi, comment il faut dire. Moi, j'aime pas dire un viol, mais. Si, c'est un peu ça, quoi.
Et quand vous parlez de cette épée de Damoclès, est-ce que vous cherchez le loup dans la montagne ?
Ben ouais, t'es toujours avec tes jumelles à chercher à droite, à gauche et tout, mais tu vois jamais rien, quoi. Tu sais qu'il est plus ou moins par là, tu sais que ça se trouve, il est assis derrière un caillou là-bas, machin, tu regardes, mais tu vois rien. Puis tu verras jamais rien, quoi.
On devient parano ?
Ouais, limite, ouais. Ouais. Tu le cherches partout, tu dis putain, il est où ?
On pourrait se dire que c'est dans la nature des choses.
Certes, on est OK pour supporter quelques pertes. Donc le renard, le corbeau, ils viennent te piquer un agneau, ça fait partie du jeu. On court pas après les renards, après les corbeaux, en disant on va tous les flinguer, on va tous les tuer. Le loup, s'il passe à côté, il me pique une brebis de temps en temps, ok, je l'accepte, je le tolère. Mais après, des cartons comme il peut y avoir, des 50, 60, 100 brebis de tuer dans la nuit, c'est intolérable, quoi, comment tu veux faire? Là, j'ai un voisin qui a 350 brebis, il s'en est fait cartonner 159 dans l'été, quoi. Et quand t'as une brebis qui est au tapis, c'est pas un billet de 100 euros qui est par terre, quoi. C'est une brebis avec son historique, comme je vous disais, les brebis, on les connaît toutes, quoi. Je suis pas contre le loup, je suis contre les cartons que le loup y fait. Voilà, on est délaissés, on est déjà éleveurs de moutons à l'étang, c'est rien au sein de la population agricole. La population agricole, c'est rien au niveau de la population active. Donc on n'a aucun poids, ni économique, ni politique, ni rien du tout. Ça, voilà. À terme, si personne ne fait rien, c'est la mort du métier. Voilà. Donc après, ben, on développera ce qu'on disait tout à l'heure, des élevages en batterie avec 2000 brebis qui pissent des agneaux, abreuvés d'OGM et de ce que tu veux, mais des mecs en montagne comme nous, là, ben. Ça n'existera plus, quoi.
Bonjour madame, je cherche l'exploitation de Didier Bénès, s'il vous plaît.
Vous faites encore à peu près un kilomètre. Et donc, ce sera là-bas, à votre gauche.
Voilà. D'accord. Et on va reconnaître facilement.
Oui, 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 tout à fait.
Bon, très bien. Merci.
Voilà.
Bonne journée.
Merci.
Ça doit faire un kilomètre, là. On va tourner, on va voir. Grange neuve. Le petit pont qui enjambe le ruisseau. Il y a plusieurs corps de ferme. Il y a le hangar avec les tracteurs. Une bergerie, ouais, une bergerie qui a l'air assez grande, donc ça doit être ici.
De des brebis qui rentrent, alors il y a peut-être quelqu'un.
Il y a des brebis. Ah oui, il y a des brebis qui rentrent. Ça doit être là. On va tenter le coup. Nous voici chez Didier Benet, à Saint-Nazaire-le-Désert. On l'a bien nommé parce qu'on n'a pas croisé grand monde. Après une demi-heure de petite route en lacet de moyenne montagne, on arrive dans cette région qui est à la limite entre la Drôme provençale et le Diois. Et on va rencontrer donc Didier Benet, qui est éleveur de brebis.
Cette année, j'ai pris 4 attaques de loups, donc 3 en montagne, donc une petite montagne qu'on n'a pas très loin de l'exploitation, et une attaque dernièrement, là, pratiquement dans la cour de la ferme et très proche des maisons. Donc 7-8 brebis à la montagne qui ont été tuées, qui ont été constatées, mais surtout 22 brebis qui me manquent encore aujourd'hui, où j'ai plus de traces. Donc des brebis qui aujourd'hui n'ont pas été indemnisées et qui ne le seront sûrement pas, parce que toute brebis qui n'est pas retrouvée et, n'est pas indemnisée. Et puis j'ai un bélier qui est complètement aujourd'hui, je dirais qu'il faut que je la tenaille parce que je veux dire, il ne peut plus vivre, il a la panse percée, donc je veux dire, il ne peut plus vivre comme ça. Mais c'est une bête qui va être euthanasiée par le vétérinaire.
Vous ne voulez pas la tuer vous-même ?
Je veux dire, pour nous, c'est très difficile de tuer nos bêtes, parce que nos bêtes, le premier truc, c'est qu'on est quand même des passionnés de ce qu'on fait. Chaque fois que je vois partir une bête qui est tuée par un loup, qui est mutinée par un loup, qui est abîmée, pour moi, c'est comme si c'était mes enfants. Les bêtes, c'est, pour nous, c'est des choses qu'on y est attaché. On soigne ça, je dirais, comme nos enfants, quoi.
Vous êtes très affecté par la mort de vos brebis. Pourtant, les agneaux, les bébés de ces brebis, vous les envoyez tous les jours à l'abattoir, toutes les semaines.
Oui, c'est notre métier qui le veut, mais c'est quand même pas pareil. C'est, je veux dire, elles sont quand même pas, je dirais, tuées dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, le loup, il n'a pas de sentiment. Il égorge des bêtes qui font des fois des centaines de mètres avant de mourir. C'est un calvaire, quoi.
Pourtant, vous êtes un grand gaillard, vous êtes quelqu'un un peu costaud.
Ouais, peut-être, mais c'est peut-être ce qui me toucherait encore le plus, de voir souffrir mes bêtes. Une bête qu'on a sur l'exploitation, là, pour plusieurs années, on les connaît, nos bêtes. Quand, je veux dire, une bête, elle part, ben, c'est triste aussi. On le reconnaît. Et je veux dire, des agneaux qui partent, c'est triste aussi, mais c'est notre métier. Donc, avant tout, je veux dire, notre métier, c'est pas de se faire manger par le loup. Ça, non. La contrainte le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus... on n'a plus une minute, je dirais on n'a plus une heure, sans qu'on se demande si on ne va pas se faire manger, quoi. Et ça, c'est très lourd à vivre. Le matin, en partant de la maison, on se dit qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui ? Quelle personne accepterait aujourd'hui que son travail, en quelques minutes, en quelques secondes, soit autant détruit, quoi.
Vous y pensez en permanence, au loup ?
Je dirais oui, aujourd'hui.
Il y a des moments où vous êtes découragé, où vous avez envie de parler, de pleurer, de...
Je dirais oui, il y a des jours, c'est vrai, quand on a pris une attaque, quand on voit les bêtes comme elles sont, quand on va récupérer des bêtes mortes ou des bêtes qui sont à moitié égorgées, c'est clair que ça ne fait pas plaisir, et je vous garantis que oui, dire sur le coup, on résiste, et puis le soir quand on rentre à la maison, des fois oui, c'est dur, c'est très dur.
Vous avez les images qui vous restent en tête ?
Bien sûr. Et je veux dire, elles sont, c'est pas des belles images. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever, malheureusement. Mais je sais même plus comment il faut faire pour enlever ces images-là. Des images de brebis égorgées. Je vous garantis que c'est pas beau, de brebis abîmées, de brebis qui souffrent, qui agonisent. Mais je vous garantis que c'est pas beau.
Alors, je suis le docteur Nathalie Bugeaud. J'ai été médecin du travail donc de 2009 à 2013 hein, et j'ai travaillé sur les conséquences des attaques du loup chez les éleveurs.
Dans votre mémoire, vous dites que pour les petits éleveurs, hein, ceux qui ont un troupeau restreint, quelques centaines de têtes, une attaque de loup, pour eux, tout bascule en une seconde.
Alors, la première attaque est extrêmement violente. Vous arrivez, vous avez des bêtes qui sont égorgées. Elles sont soit carrément mortes ou soit en train de mourir. Ce sont des bêtes en plus qu'ils connaissent. Hein. C'est comme si c'est un animal domestique. Eux interprètent ça comme une scène de crime. En fait, on est carrément dans la violation en fait, de l'intégrité, hein, dans la mesure où c'est effectivement comme un bandit qui arrive et qui rentre dans votre intimité pour tout vous saccager dans votre maison et vous voulez ce que vous avez de plus précieux, quoi, et en l'occurrence leur travail.
Les réactions, les symptômes que ça peut provoquer alors chez les éleveurs, c'est quoi ?
Alors, j'ai été assez étonnée de voir qu'en fait, quelque part, ils le sentent. Ils pressentent les choses.
Les éleveurs
pressentent les choses. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer à cause du temps, à cause de... Ils pressentent quelque chose. Et après, une fois qu'ils sont arrivés, donc effectivement, pour X raisons, ils n'ont pas pu aller sur le terrain tout de suite. Quand ils vont sur le terrain et qu'ils voient ça, donc le monde s'écroule. Leur outil de travail a été détruit. Donc, dans un premier temps, souvent, ils sont en colère. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir essayé à plusieurs reprises de parler, de ne pas avoir été entendus. Ils ont un sentiment d'impuissance totale. Et après, donc du coup, ils doivent mettre en place... Il y a toute une procédure, effectivement, pour la déclaration, etc., etc. Et ça prend du temps. Et du coup, ils vont devoir, en très peu de temps, se concentrer donc, pour retrouver les bêtes. Toutes les bêtes qui ne vont pas être retrouvées ne seront pas indemnisées. Il va falloir s'occuper des bêtes qui sont touchées aussi, qui ont été blessées. Il va falloir rassembler le troupeau. Il va falloir essayer de calmer les animaux. Donc dans un premier temps, ils sont dans l'action à ce niveau-là. Et après, secondairement, effectivement, la pression étant retombée, peut apparaître en tous les cas un sentiment de dépression derrière. Du fait de ne pas avoir le sentiment d'être compris, ils ont tendance à s'isoler. Et c'est là où les choses, si l'isolement persiste, hein, c'est là où les choses peuvent se dégrader. Quoi.
Comme
la dépression. La dépression et ultérieurement, effectivement, l'état de stress et ultérieurement le stress post-traumatique qui peut arriver, évidemment. Mais l'impuissance, le fait de se sentir impuissant, c'est terrible comme sentiment. C'est absolument terrible.
Et dans les symptômes ou dans les conséquences, en tout cas, il y a un phénomène d'hypervigilance.
Dans le syndrome post-traumatique, évidemment, vous restez en hypervigilance, c'est-à-dire que pendant plusieurs nuits, le moindre bruit ou le moindre mouvement, ne serait-ce que du chien de garde, par exemple, quand il se met à aboyer, un chien de garde que vous connaissez très bien, vous connaissez tous les sons qu'il va émettre. Donc dès que le chien va commencer à grogner d'une certaine manière, vous allez être en alerte permanente, donc en alerte le jour, en alerte de nuit, vous allez vous retrouver fatigué du coup, là vous tombez dans le syndrome dépressif et... Voilà quoi.
Alors vous qui avez travaillé avec les éleveurs, j'imagine que c'est une population pas facile à approcher quand on veut apporter une aide psychologique. Le mot psychologie, déjà, ça doit les faire fuir, non ?
Exactement. D'abord, ils ne sont pas demandeurs de ce genre de choses. Ils sont demandeurs d'aide, certes, mais pas d'aide psychologique. Hein. Donc si vous dites, on vous adresse à un psychologue d'emblée, l'éleveur il va dire, mais je ne suis pas fou. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que j'ai subi une attaque. Maintenant, je ne vais pas bien à cause de ça. Je n'ai pas besoin d'un psychologue. J'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai besoin qu'on empêche ça, que ça recommence. Mais effectivement, quand ils arrivent à se livrer, on a vu des éleveurs pleurer et se taire, avoir la gorge nouée parce qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Et quelque part, vous ne pouvez pas rester indifférent à ça. Ce n'est pas possible.
Cette détresse des éleveurs face au loup, face à cet ennemi souvent invisible, la Mutualité sociale agricole de la Drôme, de l'Ardèche et de la Loire, la MSA, l'a entendue. En 2012, elle a mis en place un dispositif jusqu'ici unique en France, un numéro de téléphone d'urgence. Les éleveurs qui le souhaitent, ou même leurs proches, peuvent se confier à un médecin, une assistante sociale ou un conseiller en prévention.
MSA, écoutez, soutien, bonjour. Oui, bonjour madame. Quel est le motif de votre appel ? D'accord. Donc si je comprends bien, vous appelez par rapport à votre mari, vous êtes en souci pour lui actuellement. D'accord. Et il est au courant de votre démarche ou il faut que... D'accord. Très bien, très bien.
On est à la MSA Ardèche-Rhône-Loire, donc sur le site de Valence. Alors, je suis Serge Debar, conseiller en prévention à la Mutualité sociale agricole. Alors nous, ce qu'on a voulu faire justement dans notre action par rapport au loup, c'était accompagner ces personnes-là. C'est-à-dire passer cette phase de la colère, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors bon, déjà dans un premier temps, il y avait tout un accompagnement, je dirais administratif, avec des organismes départementaux qui peuvent leur apporter des aides financières. La première des choses que doit faire donc une personne qui a subi une attaque, eh bien, c'est faire vérifier cette attaque. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais c'est faire vérifier que cette attaque est bien une attaque du loup, quoi. Il n'y a vraiment que les bêtes avec des marques identifiées par des morsures qui vont être prises en compte. Voilà. Alors c'est vrai que ça aussi, c'est une détresse aussi par rapport aux éleveurs qui, eux, disent, voilà, bah, sur une attaque de loup, il y a eu 7 ou 8 bêtes ou 10 bêtes qui ont été attaquées par le loup, qui ont été éventrées par le loup, mais moi, j'ai perdu 50 bêtes, quoi. Voilà, donc c'est aussi cette injustice-là qui va entraîner une détresse dans le comportement des éleveurs. Des personnes qui subissent une attaque, deux attaques, trois attaques continuellement, ils se sentent abandonnés. Dire voilà, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et c'est pour ça que nous, on a voulu intervenir. Parce que bon, dans les témoignages qu'on a eus, c'était aussi ce sentiment d'abandon. Dire voilà, mais attendez, mais qui c'est qu'il y a derrière? Alors bon, ben c'est sûr qu'il y a bien, il y a la DDT, la Direction départementale du territoire, il y a l'ONCSF qui vient constater, mais bon, voilà. Le loup, il laisse des traces sur les brebis, mais il laisse des traces aussi sur les hommes.
Nous sommes en route vers Valmaravel, qui est un petit village dans le Haut-d'Iois, dans la région du Haut-d'Iois. Et on va à la rencontre d'Irène Jourdan, qui est éleveuse et qui a perdu pas mal de brebis. Et d'ailleurs, quand on arrive un petit peu avant son exploitation, bah, on a déjà la teneur, l'ambiance, puisque sur les poteaux téléphoniques, juste avant, il y a d'abord un gros panneau bleu. Il y a marqué « Ici, le loup a tué ». On va avancer un petit peu. Le suivant... Ah oui, alors ici, le loup a tué 70 brebis, un chien. Après, on a un poney, noté toujours sur ces mêmes panneaux bleus. Et le dernier panneau, à qui le tour? Là, on sort de la route et on monte sur une petite route caillouteuse. On arrive sur l'exploitation, avec des ballots de paille. Le tracteur, les hangars. Je vois pas encore les brebis, mais elles doivent pas être loin. Et les patous, mais qui ont l'air gentils.
D'accord. Yvan qui m'accompagne.
Oui.
Oui, non, mais bonjour.
Bon, on a trouvé, finalement, on vous trouve assez facilement avec les panneaux.
Ah ben, en plus, oui, c'est vrai.
C'est vous qui les avez faits, ces panneaux?
Ouais, 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 c'est nous qui les avons faits, depuis l'année dernière, quoi. Depuis qu'on a eu les attaques, on a fait essayer de sensibiliser les gens, donc on a mis ça, voilà.
Les gens qui passent sur la route, voiture. Qui voient ce qui se passe dans la région.
Voilà, oui. Oh, ici, il y en a quelques-uns qui s'arrêtent, ils les prennent en photo. Voilà. Je m'appelle Irène Jourdan, je suis éleveuse au vin à Valmaravel. J'ai commencé avec un petit troupeau et puis j'ai augmenté petit à petit. On est arrivé à 400 brebis. Et tout allait bien jusqu'à l'année dernière où il y a eu des attaques de loups sur l'estive. Où là, j'avais pris des brebis en garde. Ben, du coup, il nous en a disparu 30 à moi et 40 à lui. Donc après, c'est vrai que du coup, ben, il me les a plus, cette année, il me les a plus remis, bien sûr.
70 bêtes.
Ouais, 70 bêtes, ouais. En l'espace de 15 jours, 3 semaines, quoi.
Le loup ne vous mange pas que des brebis.
Ouais, y a
pas
que les brebis. Il nous a mangé un poney aussi, ouais, l'année dernière. Il a tué un poney, il a mangé, il a enlevé l'épaule avant et il a mangé tout l'intérieur, toutes les entrailles, quoi. Donc voilà.
Ça s'est passé où?
Oh ben ça s'est passé à 150 mètres d'une maison d'habitation, en plus, vraiment pas loin, quoi.
Là, ici, là ?
Oui, oui, oui. Sur
vous
le,
nous montrez ?
Sur le village. Vous voulez qu'on aille voir ?
Oui.
Oui.
Bon. Si c'est pas très loin.
Non, ben on va monter là sur la butte, comme ça on le verra. Comme ça on verra les brebis aussi. Oui, donc c'est vrai que quand on les a rentrés, on a dit, ben enfin, ça y est, on est tranquille, on va pouvoir dormir tranquille, parce que jusqu'à là, on dormait pas bien, voire pas du tout. Et donc, voilà, quand j'ai découvert ça, ben là, ça a été le summum, quoi.
Financièrement, ça représente combien ?
Oh, pour le gardiennage des brebis, j'avais 4000 euros quand même, que j'ai plus. Pour les poneys, ben, j'avais quand même 1000 euros, donc ça fait déjà 5000 euros.
Par an ?
Par an, oui. Après, sans compter ben, la perte des brebis, la perte des agneaux, le stress des brebis, enfin, ça a été un petit peu... voilà. Donc, exactement, je ne sais pas combien ça se monte. Je dirais entre 10 et 15 000 euros, quand même. Parce que, bon, sur 300 brebis que j'avais mis à la lutte, on en
à
a
lutte.
Eu à la lutte.
Ça
oui.
Veut dire quoi ?
À la reproduction, quoi. Qu'on avait mis le bélier. On n'a eu que 170 agneaux, quoi.
C'est pas normal ?
Ah non, sur 300 brebis, c'est pas normal du tout. Donc, bon, il y a eu beaucoup de pertes aussi, quoi. Donc, voilà.
Et parmi les victimes, vous m'avez dit, il y a aussi un chien, à vous.
Oui, un patou aussi. Là-haut, on avait trois patous. Et il y en a un qu'on n'a pas retrouvé au bout de, je dirais au bout de d'une semaine que les attaques ont commencé. Et le patou, on ne l'a pas retrouvé. Après, si, quand on avait fait le tour du parc, on avait vu des poils. Donc on imagine que c'était le patou. On ne sait pas trop, quoi. On en veut la terre entière, bien sûr. Moi, l'année dernière, j'en étais... à un point où je dormais plus du tout, quoi. Quand je me levais, je m'imaginais mes brebis en train de se faire bouffer là-haut. C'est pas une vie, quoi. Oui, alors le poney, il a été attaqué là. Et vous voyez, c'est quand même... là, il y a une maison d'habitation. C'est habité toute l'année, donc c'est à quoi, 150 mètres de la maison. Voilà, c'est lequel le tir.
Maintenant au pied du Vercors, toujours dans le Diois, avec Thomas Romani qui est conseiller en gestion pastorale. Donc Thomas Romani, vous conseillez des éleveurs dans la façon dont il faut poser des clôtures, dont il faut se protéger du loup. Et là justement, on monte un petit chemin caillouteux le long d'une clôture, d'une bordure. On y est ?
Ben on y est, ouais. On est sur ce qui nous permet d'avoir une bonne petite vue sur le village, ouais.
Alors on est où là ?
Là on est sur une commune au-dessus de Die en direction du col de Rousset. On est à Chamaloc. On a un certain recul sur les actes de prédation et les mesures mises en œuvre par les éleveurs. Et ce qu'on leur dit, c'est qu'on n'a pas de solution, tout simplement. Voilà, on en est là aujourd'hui. On s'était dit dans un premier temps que les attaques resteraient au niveau des alpages et donc il fallait mettre en œuvre la batterie de mesures miracles, entre guillemets, un berger, du regroupement nocturne, du patou, etc. Mais on se rend compte que sur ces espaces-là qui sont aujourd'hui bien protégés, eh bien on a toujours et encore des attaques. Moi, ce que j'ai vu cet été et qui n'a pas fonctionné, c'est un troupeau protégé dans un parc de nuit, clôture double enceinte, c'est-à-dire deux rangées de filets électrifiés, patou au milieu du troupeau, à côté de la cabane avec berger et aide-berger, et une attaque malgré tout réalisée. Voilà, et réussie, si on peut parler de réussite. Ce que j'ai vu aussi, c'est lors d'une visite d'alpage chez un éleveur. Il était en train de garder. Je suis arrivé à midi pour discuter avec lui d'un projet technique. Il a rentré ses brebis à ce moment-là. J'étais ici, il y avait un stagiaire. Il avait trois patous qui étaient là, qui ont vraiment pour but de défendre le troupeau contre le prédateur, plus des chiens de conduite dont on peut se dire, malgré tout, qu'avec leur odeur, ils peuvent faire aussi office d'effarouchement. Sur un espace de prairie, de pelouse bien dégagée, eh bien, on s'est rendu compte, une heure après, que malgré ça, le loup avait attaqué la queue du troupeau alors qu'on était seulement à 200 mètres.
Il n'a pas peur de l'homme.
Ah non, mais ça, c'est un mythe qu'il ait peur de l'homme. Une attaque de loup, c'est imprévisible. C'est imprévisible. Vous avez l'impression d'avoir tout fait, d'avoir tout géré au millimètre, d'être là à surveiller votre troupeau, d'être vigilant toute la journée, de rentrer vos brebis, de les regrouper la nuit, de les mettre dans des filets, d'avoir vérifié l'électricité, de tout avoir fait correctement. Et un jour, eh ben, vous allez vous faire avoir. Parce que le loup est là, lui, il a le temps, il circule jour et nuit, et il attend la faille, la faiblesse. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, c'est un prédateur, c'est tout. Donc, il fait ce qu'il a à faire. Hein.
Réguler le loup, finalement, ça passe par le tuer, forcément.
Bah, le loup a une dynamique de croissance, de toute façon, qui est de 20% par an. Donc, à partir de là, il étend son territoire. On le voit bien, depuis 1992, il est parti des Alpes-Maritimes. Il est dans les Vosges, dans la Lozère, apparemment dans l'Aube aussi. Il n'y a rien qui fasse office de régulateur sur la population de loups. C'est le super prédateur. Donc à partir de là, si on se dit qu'il est bon de gérer la population de loups, de gérer les effectifs, de gérer son avancée, il est évident que ça passe par du prélèvement. Aujourd'hui, compte tenu du nombre de loups présents sur nos territoires, 250 à 300 en France, ça dépend les estimations, c'est une population qui est installée. Et après, on n'a pas les moyens et le savoir-faire pour avoir un impact sur cette population de loups-là. Et après, ce n'est pas la volonté non plus qui est affichée.
Pour les associations écologistes, il faut permettre aux loups de vivre dans nos montagnes. D'ailleurs, elles font remarquer que les éleveurs sont indemnisés, et correctement, 160 euros pour une brebis tuée. Il existe également des aides financières pour les clôtures, les aides bergers et pour les chiens patous. Et puis il y a des mesures pour réguler le loup. Les éleveurs peuvent bénéficier des tirs de défense. Certains sont autorisés à tuer le loup s'ils l'aperçoivent près de leur troupeau. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage interviennent également. L'été dernier, dans la Drôme, ils ont passé des nuits entières à guetter le loup, mais ils ne l'ont jamais vu. Aucun loup n'a été tué l'an dernier dans le département.
Je m'appelle Micheline Falcon, je suis éleveuse bergère depuis une trentaine d'années.
Vous dites éleveuse, je croyais que vous étiez retraitée depuis peu.
Ah ben oui, j'étais, on va dire, je ne suis pas tout à fait encore retraitée, parce que j'ai encore une année d'activité, mais au ralenti. Oui, je vais être retraitée dans l'année prochaine.
Retraite anticipée un peu ?
Oui, une retraite un petit peu anticipée. Ça m'ennuie de le dire, parce que c'est un métier que j'ai énormément aimé. C'est un choix que j'avais fait il y a plus de 30 ans. C'est avec ce problème de loup, nos conditions de travail deviennent vraiment difficiles et du coup, ben, j'arrête.
Voilà, il y a encore quelques semaines, vous aviez un troupeau de combien de têtes ?
Eh bien, là, depuis 2 ou 3 années, on avait 500 brebis.
Votre première attaque de loup, racontez-moi un peu quand c'était, comment ça s'est passé ?
Ouh là là, ça s'est passé en 2006. J'étais donc sur la montagne de Lop, à Valdrome. C'est arrivé comme un coup de massue. Et je dois avouer que sur le coup, j'étais tellement atterrée que je voulais arrêter. Dans un premier temps, on a cru que c'était une attaque de chien. On a dit, tiens, il y a un chien qui rôde. Et comme les attaques se faisaient de plus en plus régulières, on s'est mis à l'évidence que c'était le loup. quand on a été attaqué, ensuite, c'est là le stress aussi. On dormait les fenêtres ouvertes pour entendre le moins de bruit. On avait installé un projecteur pour éclairer le parc. Et tous les soirs, j'allais quand même faire ma ronde, au cas où. Et un soir, je sors pour faire ma ronde, comme d'habitude, mais il y avait du brouillard. Et je sors avec ma lampe, et à 2 mètres de moi, il y avait le loup.
Vous avez fait quoi ? Vous
avez eu rien, j'ai eu peur. J'ai crié, il est parti, il a eu peur lui hein, aussi. Hein. Donc, on ne peut pas décrire ce que l'on ressent quand on est attaqué par le loup, c'est très difficile. Après on est là, le moindre petit mouvement, l'ombre, là mais il y a quelque chose là-bas, enfin, on pense qu'à ça. J'ai passé mon permis de chasser cette année. Vous voyez, j'ai 62 ans, c'est ridicule, ridicule.
Pour pouvoir bénéficier des tirs de défense.
Voilà, exactement. Mais je ne suis pas assez agile, je n'ai pas assez de pratique pour dire que si un jour je voyais un loup, je puisse le tirer.
Vous nous le montrez, votre fusil ?
Ah, il est à l'intérieur. Alors, je vais vous le chercher, si vous voulez. Voilà. Voilà l'outil.
Il est neuf ?
Il est tout neuf. Un Beretta. On arme, on met la cartouche, soit une balle, soit une cartouche à plomb. On referme, mais moi j'ai toujours la trouille un petit peu, vous voyez, je ne suis pas du tout entraînée. Tchou. Alors vous voyez, déjà si je fais ce bruit-là, le loup, il y a un moment qu'il sera parti. Et puis après, vous épaulez et crac, vous tirez. Voilà.
Mais est-ce que les gens peuvent vous comprendre ? Est-ce qu'on peut comprendre un éleveur qui a été attaqué par un loup ?
Je ne sais pas. Pour moi, qui avais fait ce choix de vie pour des raisons très précises, hein, par rapport à cette société de consommation, ce gavage, je me suis dit... Les défenseurs des loups, c'est parce que c'est pour se donner bonne conscience. Parce qu'effectivement, on a un mode de vie, on a fait des choix de vie qui détruisent notre planète. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et on continue de vivre comme ça parce que hein, pour se remettre en question sur nos modes de vie, ça paraît difficile. Eh bien voilà, ça fait plaisir. Et ça remet en question notre outil de travail, mais notre vie tout court. C'est toute notre vie qui est remise en question. C'est-à-dire qu'on nous demande de partir, quoi. Que des citadins soient pour le loup, parce que voilà, le loup, c'est un animal gentil là-bas dans la montagne, et qui ne connaissent pas du tout notre vie ni nos métiers, je le comprends. Mais des gens qui partagent nos vies et qui sont pour le loup, c'est insupportable. Quelle alternative on nous propose ? D'aller grossir les habitants, les citadins, dans les cubes en béton ? C'est ça qu'on nous propose ? Non, moi, je veux continuer à vivre ici. En ville, ils sont assez nombreux, ils sont trop nombreux.
Alors, est-ce que, je vais vous titiller un peu.
Oui, je vois ça.
La filière est quand même déjà en crise. Est-ce que le loup, c'est pas un bouc émissaire ?
Ah là là, pas du tout. Le loup n'est pas du tout un bouc émissaire pour nous. La filière ovine, elle est en crise. Citez-moi un secteur qui ne le soit pas en crise. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on va baisser les bras ? Nous, la filière ovine, bon, elle a ses difficultés. On essaye de combiner, on trouve des solutions. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît aussi. On arrive à s'en sortir. Voilà, il y en a qui font de la vente directe, il y en a d'autres qui font... Tandis que le loup, c'est un problème sans fin. C'est tous les jours qu'on y pense, c'est tous les jours qu'on se dit « Vite, on va voir dans le parc si... » Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas vivre avec le loup. C'est ou le loup ou nous.
Et à l'avenir, vous êtes optimiste ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Le combat sera rude et long. Et le problème, c'est est-ce que les éleveurs vont tenir le coup ? Et ce que je redoute, c'est que même pour les gens qui aiment la montagne, la campagne, qui viennent en vacances, ils vont se rendre compte du dégât quand nous n'y serons plus. Et ça sera trop tard.
Les bergers malades du loup, c'était un reportage de Solène Lehen avec Yvan Turc à la prise de son, mixage Jason Taous et Jean-Louis Deloncle. Nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu Provence à Aix avec Patrick Fabre. Patrick Fabre, vous êtes directeur de la maison de la Transhumance. Bonjour.
Bonjour.
Votre association couvre tout le sud-est de la France et vous connaissez bien donc ces problématiques du loup qui touchent particulièrement cette région. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir un débat serein sur le loup ? Parce qu'on l'a vu lorsqu'on a diffusé une première fois ce reportage en janvier dernier, ça a déclenché vraiment une avalanche de réactions, parfois virulentes, des débats vraiment, vraiment très, très serrés. C'est difficile d'avoir un débat serein sur cette question ?
C'est très difficile. Depuis une vingtaine d'années que le loup est présent effectivement dans nos régions, nous avons multiplié les conférences, les rencontres et autres, et il est très rare d'avoir des débats apaisés sur ce sujet-là, effectivement.
Alors, on entend une éleveuse, à la fin du reportage, dire « c'est le loup ou nous ». Est-ce que l'élevage et le loup, c'est vraiment inconciliable ?
L'agneau et le loup, et les brebis et le loup, l'ont toujours été, hein, c'est pas nouveau. Ce qui est sûr, c'est que dans nos systèmes d'élevage très pastoraux, où les troupeaux sont presque tous les jours dehors au pâturage, la compatibilité est vraiment difficile, voire impossible.
C'est-à-dire qu'il y a des abattages qui sont ordonnés de plus en plus par des préfets, certaines fois d'ailleurs annulés par les tribunaux derrière avec des recours des associations de défense du loup. Est-ce que ça, c'est vraiment la seule solution qui existe d'abattre les loups ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles ? Est-ce que vous y travaillez ?
Depuis une vingtaine d'années, beaucoup de choses ont été essayées au niveau de la protection des troupeaux. Les plus connus, bien sûr, ce sont le parquage de nuit des troupeaux, les aides bergers, les filets de contention et autres chiens de protection. On peut malheureusement ne constater que le fait que les attaques sont de plus en plus nombreuses et les brebis tuées ou perdues également. Donc on fait un peu le constat aujourd'hui, c'est celui que fait la profession, mais pas uniquement, l'administration aussi, que tous les efforts qui ont été faits ont quand même échoué aujourd'hui. Donc il faut sans doute passer à une autre phase qui est effectivement celle de la régulation du prédateur pour notamment lui apprendre de nouveau à avoir peur de l'homme, des troupeaux, pour éviter par exemple qu'il n'attaque de jour en présence humaine, parce que c'est le cas désormais.
Régulation, concrètement, ça veut dire on tue régulièrement des loups pour en réguler la population ?
Ça veut dire effectivement qu'on prélève des loups. Lorsqu'il y a vraiment des attaques répétées sur les troupeaux, ce qui a surtout, à notre avis, pour intérêt de lui réapprendre une fois de plus à avoir peur, parce qu'on ne peut pas laisser ce prédateur qui s'adapte à tout se diffuser comme ça sur l'ensemble du territoire français, en tout cas une grande partie aujourd'hui, sans rien faire, si je puis dire. Il faut lui réapprendre à avoir peur, c'est la priorité.
Comment ça se passe dans les pays comparables, les pays frontaliers notamment, puisque je sais que votre association, par exemple, travaille avec d'autres organismes ou d'autres bergers, d'autres éleveurs dans des pays frontaliers ou proches.
Les difficultés sont les mêmes, quoi que en disent certaines personnes. Que ça soit en Italie, où nous travaillons très souvent, que ça soit en Espagne ou en Roumanie, les difficultés sont quasiment les mêmes. Bien sûr que selon les systèmes d'élevage, selon les types de montagnes, les types de territoires, elles peuvent être un peu différentes, mais la problématique est la même. Et de toute manière, les élevages font avec parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait des endroits où il y ait une cohabitation merveilleuse, y compris dans certains territoires, parfois citer un exemple comme les Abruzzes. Dans les Abruzzes, la moitié des éleveurs ont disparu depuis une dizaine d'années. Donc là aussi, la situation est quand même un échec.
Il y a une autre partie de la politique qui est appliquée. Il y a d'une part les prélèvements, le fait qu'on autorise à tuer des loups, comme on le disait tout à l'heure. Et puis l'autre partie, ce sont les indemnisations. Alors on indemnise d'une part quand des bêtes sont tuées. On indemnise aussi quand des mesures de protection sont prises. Est-ce que ça, c'est une politique qui est suffisante ou est-ce que les éleveurs sont demandeurs encore de choses supplémentaires ou nouvelles sur cet aspect-là ?
Suffisantes, elles ne le sont pas. Heureusement qu'elles existent, bien sûr. Puisqu'on sait très bien, aujourd'hui, c'est quand même reconnu par tout le monde que il y a un certain nombre de brebis qui sont perdues suite à des attaques qu'on ne retrouve jamais et qui ne sont pas indemnisées. Donc ce que demandent les éleveurs, c'est d'abord d'avoir la paix dans leur pâturage et également vivre de leur travail en sérénité, puisque certains ont fait le choix pour ça. Ce sont des choix de vie qu'ont fait les éleveurs, avec derrière beaucoup de passion, beaucoup d'engagement personnel, voire de philosophie. Donc la question, elle est effectivement des indemnisations, mais elle est beaucoup plus large. Elle est autour d'un choix de société, quelque part, entre des espaces soi-disant naturels, ensauvagés, et puis d'autres anthropisés, avec des gens qui sont respectueux des territoires, qui produisent de la viande, de la laine de qualité. C'est cela qu'ils demandent. C'est un respect de leur métier, de leur profession, d'une profession qui a su s'adapter depuis des millénaires et qui aujourd'hui est mise à mal par un problème qui pour elle est un petit peu à la marge de ce que doivent être les préoccupations de nos sociétés.
En tout cas, les clivages sont parfois plus complexes qu'on le pense, parce qu'il y a des éleveurs qui sont eux-mêmes écologistes, des éleveurs bio, qui, sur cette question-là du loup, sont en conflit avec certains écolos, défenseurs du loup.
Bien sûr, hein, il y a, je le disais tout à l'heure, des éleveurs qui ont fait un choix de vie pour travailler dans des territoires, être en relation proche avec la nature. Hein, et donc aujourd'hui, ils sont en conflit eux-mêmes par rapport à leur choix de positionnement de départ. Et ils se trouvent remis en cause et traités de vilains canards, alors que justement, ils ont fait des choix complètement responsables. C'est cette situation un peu rocambolesque que l'on vit à ce niveau-là, de voir des éleveurs effectivement qui sont vraiment respectueux de l'environnement, des troupeaux, du bien-être animal, et qui se retrouvent accusés de tous les maux par les défenseurs du loup. Ça, c'est une situation qu'on connaît bien aujourd'hui.
Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, d'être un petit peu mieux entendu par les politiques, que le sujet progresse quand même? Pas plus tard que la semaine dernière, Manuel Valls, le Premier ministre qui était en visite en Savoie, dans le massif des Bauges, a fait une déclaration de soutien aux éleveurs, en disant que le gouvernement était à leur côté sur cette question.
Il y a effectivement une prise de conscience, notamment due au fait que le loup s'étend de plus en plus dans les territoires, hein, le Jura, les Vosges, la Lozère, l'Est des Pyrénées, etc. Donc le problème devient national et plus uniquement concentré sur des éleveurs des Alpes du Sud. Et tout cela coûte de plus en plus cher en termes d'indemnisation. Donc effectivement, la question aujourd'hui est mieux prise en compte que précédemment. Et heureusement, on espère tout simplement qu'il ne soit pas trop tard quand même.
Et puis, le nombre de bêtes tuées cette année semble de nouveau supérieur à celui de l'an dernier. Je crois que cet été, il y avait déjà un millier de bêtes qui avaient été tuées, en plus par rapport à la même époque en 2013, si je ne me trompe, c'est ça?
On n'a pas encore les chiffres définitifs de l'été 2014, mais effectivement, d'après les premiers renseignements, il y aurait 20% d'attaques et de brebis tuées de plus qu'en 2013. Donc, ça fait quelques années que le chiffre croît, effectivement.
Merci Patrick Fabre. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la Maison de la Transhumance et vous étiez en duplex depuis les locaux de France Bleu Provence à Aix. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Cette émission était réalisée par Anne Lioreau, assistée de Juliette Accius et Jérôme Boulet. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bon dimanche et bonne semaine à l'écoute de France Inter.